qui compte pour un acteur, c'est la personnalité, sa présence.
Franchement, ma chère, c'est le cadet de mes soucis.
Je m'appelle Bernie Noël et j'aime bien les yens.
Come on, guy. Who be sweet with me.
C'est tellement intéressant de voir la réaction des spectateurs à qui on peut déplaire. J'aime bien frôler les catastrophes.
Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations.
On a tout vu.
Allez, action!
Action, pourquoi faire?
L'adolescence est le seul temps où l'on n'est pas, où l'on est appris quelque chose. Marcel Proust, oui. Apprendre à se définir, cerner ses désirs face aux attentes des parents, aux adultes et aux injonctions de la société. Ils sont tous uniques, ces adolescents. Lui en a choisi deux pour incarner cette parenthèse vertigineuse dans une vie. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à toutes et à tous.
5 ans pour entrer dans ce qu'on appelle l'âge adulte. 5 ans filmés au plus près de 2 adolescentes. Bonjour Sébastien Lipschitz.
Bonjour.
La vérité d'une parole, celle de vos 2 protagonistes dans un film adolescente. 5 ans résumés en 2h15, les joies, les peines, les obstacles, la construction. Jour ordinaire et extraordinaire comme ce film. Vos 2 héroïnes sont là ce matin. Bonjour Anaïs Chambaudy.
Bonjour.
Et bonjour Emma Jaubert.
Bonjour.
Désormais entrée dans l'âge adulte, vous nous raconterez cette grande aventure adolescente et sortie mercredi. Aux côtés de votre film, Sébastien Lipschitz, d'autres héroïnes, la daronne, Rox, des ados en Angleterre, vous l'avez vu, vous nous en parlerez tous les trois, et les joueuses de l'Olympique Lyonnais. C'est parti.
Donc grosso modo, c'est donnant-donnant. Vous êtes super, j'ai aucune raison de dire qu'est-ce que je vais faire pour leur courir la vie aujourd'hui. Par contre, si ça tourne pas, ça tourne pas, et là je change de visage. D'accord? Vous êtes en 4e, vous avez 3 de moyenne en anglais, ça c'est pas un problème. Vous êtes pas un boulet, vous êtes un élève. Vous avez 17 de moyenne, vous êtes odieux et pion, là vous êtes un boulet. C'est pas vos notes qui m'intéressent. Quand vous passez la porte, je dis pas « Ah tiens, la 7 qui arrive, ah il y a 6,5 !» Ça c'est mon boulot, c'est mon job. Vous avez 3, vous passez à 4, à 5, à 6, vous êtes un excellent élève. Vous avez 12, vous passez à 11, à 10, à 9, à 8, vous êtes un mauvais élève. Les profs, on n'est personne pour vous dire si vous allez réussir votre vie ou pas. Moi, j'en sais rien ce que vous allez être dans 10 ans.
C'est dans cette classe, à Brive-la-Gaillarde, que l'on vous découvre toutes les deux, Anaïs et Emma, en 4e, à l'aube de ce film adolescente. À l'origine, Sébastien Lipschitz, vous aviez l'intention de filmer un garçon, et puis retournement de situation, les proviseurs vous ont indiqué les filles, parce que les filles sont plus affirmées et plus matures.
Exactement, oui.
Pourquoi un garçon? Parce que c'est de votre sexe à vous, donc vous le connaissiez mieux.
Ben, je me suis surtout dit qu'en fait, qu'une fille à cet âge-là, peut-être aurait du mal à supporter le regard d'un homme, surtout à un âge où le corps change beaucoup.
Oui.
Que ça serait quelque chose peut-être de tout simplement de difficile à supporter. Et c'est vrai que les proviseurs, vraiment de tous les collèges lycées, c'est ça qui m'a troublé. En fait, ils m'ont tous dit la même chose, qu'ils avaient véritablement constaté que cette génération de filles était différente. Ils les trouvaient plus affirmées, plus soucieuses de l'égalité, plus matures. Bon, elles le sont de toute façon, oui, en général, à cet âge-là.
Ouais.
Mais ils avaient quand même le sentiment que cette génération-là en particulier était forte, on va dire. Et donc, ils m'ont vraiment engagé à ouvrir le casting aux 2 sexes. C'est ce que j'ai fait.
Et donc, vous apprenez par hasard qu'elles sont amies, ce qui est bien. Et vous dites un truc très joli. Vous dites « Chacune est une couleur de l'adolescence ». Alors, ce serait quoi la couleur d'Anaïs, par exemple ?
La couleur d'Anaïs, ça serait... je dirais qu'Anaïs, c'est une sorte de bulldozer. Elle pulse.
Ouais.
C'est quelqu'un qui va toujours de l'avant et qui essaye de... Comment dire, malgré toutes les embûches de la vie qui lui tombent dessus, elle essaye de se relever, de trouver une solution. Et...
Mais ça, c'est ce que vous voyez après coup. Comment vous la sentez? Comment vous la sentez quand vous la voyez pour la première fois?
Je sens cette énergie-là.
Ouais.
Elle a quelque chose qui va toujours de l'allant. Je l'ai trouvée d'emblée très structurée. Elle parlait extrêmement bien. Il n'y avait pas d'hésitation dans ses phrases, pas de « e », pas de pause, etc. Même elle déborde, si presque. Elle a besoin absolument de s'exprimer. Et je trouvais que cette énergie qu'elle avait et son intelligence, en fait, à 12 ans, parce que quand même je la rencontre à 12 ans,
ah ouais,
en 5e, je les ai castées quand elles avaient entre 12 et 13 ans. Et il y a eu une évidence pour moi.
Et Emma est une autre couleur.
Emma a une couleur un peu plus sombre. Quand je me souviens, je l'ai rencontrée parce qu'elle était plus réservée, beaucoup plus timide. Et en même temps, elle avait ce regard un peu buté, surtout face à ses parents. Parce qu'évidemment, quand je l'ai castée, chacune venait avec ses parents.
Ouais.
J'avais besoin de voir aussi à quoi ressemblait évidemment toute la famille. Et je me souviens que d'emblée, pendant l'entretien avec Emma et ses parents, sa mère a essayé de te corriger un petit peu, comme ça, et Emma, du coup,
déjà,
la reprenait.
Déjà.
La reprenait, elle disait non, comme ça. Et elle voulait affirmer par elle-même, en fait, qui elle était. Et j'avais trouvé, du coup, cette espèce de double caractère, on pourrait dire, entre ce côté assez renfermé et plutôt en observation des autres, et puis tout d'un coup, cette espèce de besoin absolument de s'affirmer face à ses parents, très intéressant.
Avant de les écouter toutes les deux, faire un film sur l'adolescence, c'est quelque chose de très particulier. Comment était la vôtre, Sébastien Lipschitz? Allongez-vous un petit peu, là.
Elle était particulière parce que mes parents ont divorcé quand j'avais 11 ans.
Oui.
Donc je me suis retrouvée un peu dans une nouvelle vie avec un beau-père. On a déménagé, j'ai perdu l'essentiel de mes amis à ce moment-là. Donc il a fallu comme tout reconstruire. On est allé en banlieue à ce moment-là, alors qu'on habitait à Paris. Donc tout a été nouveau, ça a été un peu dur en fait. J'ai pas du tout aimé ce divorce. Et puis le contexte en fait aussi était particulier. Je me souviens que François Mitterrand venait d'être élu,
oui.
Les radios libres arrivaient, donc ça c'était génial. On pouvait écouter de la musique, des émissions qu'on aimait. Et puis il y avait quand même en ligne de mire ce sida, le chômage. On parlait nous quand même comme de la bof génération.
Est-ce que Anaïs ou Emma, vous avez posé des questions à Sébastien Lipschitz justement sur sa propre vie? Ça vous intrigue, ça vous intéresse de savoir?
Elles en ont rien à faire.
Elles en ont rien à faire. Anaïs.
Pardon. Je sais même plus en fait. Mais ça fait tellement d'années maintenant qu'on le connaît. Honnêtement, on s'est dit tellement de choses avec Sébastien que.
Mais c'est important parce que vous avez en face de vous un réalisateur qui va vous filmer longtemps. Pourquoi vous dites oui?
Ben en fait, au début, on réalisait pas vraiment déjà l'ampleur que ça allait prendre. Et au final, ben, de base, faut savoir qu'on y est allé sans aucune intention d'être prise, vraiment que par curiosité. C'était vraiment de la pure curiosité, et ça a été très étonnant. Enfin, moi, j'ai été très étonnée d'avoir été prise. Et au final, moi, personnellement, pour moi, je vivais au jour le jour, donc je réalisais pas trop encore que ça allait durer 5 ans. Enfin, je le savais, on le savait dès le départ. Mais pour moi, 5 ans, c'était énorme, mais je réalisais sans plus. Donc voilà, après on a dit oui, c'est bien.
Emma ?
C'est vrai que du fait de notre âge, à 13 ans, s'engager comme ça sur un documentaire, en fait, on savait, oui, que ça allait durer, que ça allait avoir une certaine durée, 5 ans, ce qui n'est pas rien, mais on ne se rendait pas forcément compte que Sébastien allait rentrer à ce point dans notre intimité.
C'est ça.
Mais très rapidement, on s'est ouverte à lui parce que c'est vrai qu'on avait une grande confiance en lui et en l'équipe. Et c'est ça qui a facilité les choses, mais c'est vrai qu'au début...
Vous avez été saoulée parfois?
Alors, je sais que des fois, enfin, au début du tournage, ça nous arrivait quand il venait filmer, qu'on allait se cacher dans les toilettes.
C'est vrai.
On y passait notre création.
On passait notre création dans les toilettes.
Ouais.
Bon, après, on aimait bien embêter, taquiner un peu Sébastien. Donc c'est vrai qu'au début, on se cachait souvent. Et en fait, au début, quand il venait, on était un peu en mode, oh là là, on n'était pas saoulés, mais... voilà quoi. Et en fait, au final, quand ils étaient là, ben, quand ils repartaient, on avait limite plus envie qu'ils repartent, en fait. Très contradictoire, mais au début, ça nous embêtait un peu, puis après, on voulait même plus qu'ils repartent.
Il y a deux filles en vous, chacune, il y a celle qui est avec les copines, et puis celle qui sont avec les parents. On va écouter un extrait de Emma. Emma et sa mère, qui va symboliser un peu toutes les étapes de Emma et sa mère dans le film.
Tu m'énerves drôlement, ma fille. Il va falloir que tu passes à la vitesse supérieure. Je t'explique juste une chose. Si tu es dans une zone de confort, il faut au minimum que tu aies le temps de tout relire. Je t'assure.
Mais j'aurai le temps. 24 trucs comme ça, recto verso, c'est quand même compliqué. Hein.
Et tu as encore 3 textes à voir.
2. Ah mais ils sont rapides les trucs. J'y mets une heure par truc. Arrête un peu. Oh. Mais vraiment, il n'y a rien de pire. Tu me stresses. Je vais rater si tu me stresses. Tu me connais.
Ça va être de ma faute.
Ben oui, là, tu me stresses. C'est vrai, quand je suis stressée, j'arrive plus à rien. Donc si tu veux faire ça que j'ai zéro à cause de toi, ça va aller. Putain, l'écrit, tu m'as pas parlé, ça s'est bien passé. Dès que tu t'en mêles, ça se passe mal.
C'est violent hein, de voir ça après coup, non, Emma, pour vous, pour votre mère?
Mais c'est vrai qu'au début, ça a été compliqué et parce que le film nous tend un miroir. Et au début, enfin, on a toujours eu conscience avec ma mère, ça a toujours été très explosif et en même temps beaucoup d'amour. Mais c'est vrai, et surtout pour elle, ça a été très violent de ouais. se voir comme ça, parce qu'elle avait l'impression un peu de passer, bah, selon ses termes, pour une hystérique. Alors qu'au final, on s'est rendu compte que c'était comme ça l'adolescence et qu'il y avait plusieurs familles qui avaient vécu la même chose, bon, différemment. Mais
et qu'à contrario, vous, sur une échelle de 10, votre mauvaise foi, vous la situez à combien dans cette histoire, par exemple?
En 5, on va dire. Les temps sont partagés.
Mais ce qui est fou dans les scènes comme ça, c'est que on sent pas Sébastien Lifshitz, on sent pas une caméra. C'est quand même dingue. Vous vous prenez la tête avec votre mère, et il y a une caméra, deux, trois personnes maximum, mais vous les oubliez.
En fait, on est, enfin, avec ma mère, c'est comme ça. C'est, il y a toujours un moment. Au début, on parle. Sébastien, pour en témoigner, on parle. Et au bout d'un moment, il y a quelque chose qui se crispe, soit pour l'une, soit pour l'autre. Et les choses s'enveniment. Donc Sébastien, même si au début, bah, c'est vrai que parfois, voilà, on voulait être dans le contrôle, mais on pouvait pas parce que c'était comme ça.
Mais est-ce que le film arrange quelque chose par rapport à ça? Est-ce que ça vous apprend quelque chose par rapport à ce que vous êtes, ce que votre mère est, et comment sont ces relations?
Oui, beaucoup, mais c'est vrai que on a beaucoup réfléchi après avoir vu le film, parce qu'on voyait pas. Enfin, ça nous a permis en fait de comprendre l'une et l'autre et de se poser des questions et aussi, enfin voilà, ma mère, je la comprends mieux maintenant et elle me comprend mieux parce qu'elle voyait quand même qu'elle me mettait une certaine pression et que c'était pas forcément vivable tout le temps. Et moi, c'est vrai que j'étais assez pénible parce que je montais vite dans les tours.
Ouais. Donc, Sébastien, et puis on parle de cette méthode, donc effectivement 2 ou 3 jours tous les mois. 25 jours par an, pendant 5 ans, une équipe restreinte, le moindre regard possible finalement dans toutes ces situations. Un chef-op, un ingé son, un assistant qui est même pas dans la pièce, et vous?
Oui. Bah, vous pouvez pas dans un documentaire être nombreux parce que on est déjà 3, c'est presque trop, on pourrait dire. Mais il s'agissait de se faire oublier. Au début, c'était d'ailleurs compliqué. Au tout début, quand j'ai commencé à tourner, la caméra était loin, elle était sur pied, je faisais des plans larges, j'étais terrorisé à l'idée que notre présence puisse perturber en fait la situation qu'on était en train de filmer. Donc il a fallu vraiment du temps pour qu'on s'apprivoise les uns les autres et que petit à petit je puisse m'approcher. D'ailleurs, beaucoup des premiers plans du film ont été à la poubelle au montage tout de suite. Ils avaient une théâtralité, une distance qui était fausse.
Et elle jouait peut-être un peu plus avec la caméra, elles étaient moins...
Peut-être qu'il y avait une petite timidité de départ. Ceci dit, quand même, les relations dans les familles sont très campées, je dirais. Mmh. Et qu'un ado, de toute façon, ça vous prend à la gorge d'une certaine manière. Il est ce qu'il est.
Ouais.
Et il affirme ce qu'il est. Ouais. Et les parents veulent pas se laisser démonter, parce qu'il n'est pas question. Et d'autant plus parce qu'il y a une caméra, je dirais. Donc, de toute manière, je dirais que la véracité de la relation, elle se déploie quand même très vite, presque immédiatement, qu'il y ait une caméra ou non.
Mais ils l'ont quand même pris comme une arme à certains moments. Soit elles, soit leurs parents, soit les autres.
Non, il y a des moments où effectivement...
Il y a un petit regard caméra une fois d'Emma.
Oui, c'est vrai.
On sent qu'elle est là, elle l'observe.
Au tout début du tournage, en fait, des fois, elle regardait de façon très très furtive la caméra pour voir si on filmait ou pas. Parce qu'elle savait jamais vraiment quand est-ce qu'on filmait ou pas. Et je l'aurais fait remarquer. Et elle me disait au départ, non, on n'a pas regardé, etc. Et donc voilà, mais bon, c'était un peu normal, quoi. Il y avait une sorte de rodage quand même à mettre en place.
Il y a une confiance, un abandon, par exemple. Je pense à Naïs quand vous embrassez votre petit copain, quoi. Non, mais ça vous a gêné de voir ça après? Parce que vous allez loin quand même, Sébastien Lifshitz. Vous allez au cœur du cœur de ces deux filles et de ces deux vies dans leur chambre.
Oui, de l'intimité, oui.
Oui.
Alors, la première fois que j'ai vu le film, j'ai pleuré quand j'ai revu mon ex. J'ai vraiment pleuré. Mais après, ça a été mon premier amour et... Quoi qu'on en dise, même malgré ce qui s'est passé, ça restera toujours l'amour de ma vie, hein. C'est le premier amour. Donc quand j'ai revu la scène, mais oui, Emma m'a pris la main, m'a dit mais pleure pas. Du coup oui, j'ai pleuré, ça m'a pas forcément gênée, mais en fait de voir, bah, du coup mon ex et moi, on va dire, je me suis rendu compte que c'est bête, mais du coup quand on se regarde d'un regard extérieur, on voit les regards de l'un ou de l'autre, même mes propres regards que je portais à mon ex. Et en fait je me dis il y avait beaucoup d'amour en fait quand on se regardait. Donc mais ça m'a pas gênée en fait, je trouvais ça mignon, c'est le premier amour.
Adolescente, Sébastien Lifshitz, c'est aussi un film sur les déterminismes sociaux. Alors c'est quoi l'idée à la fin de se dire c'est ça qui guide tout, c'est ça qui va, ou alors des personnalités comme les leurs? pourront aller au-delà de ça ?
Ben, elles se battent pas avec les mêmes armes, quoi. C'est-à-dire que Anaïs, effectivement, a une histoire familiale difficile. Je sais même pas si elle en est totalement encore consciente. Je sais quand elle a vu le film, elle m'a dit, tu vois, j'étais pas sûre d'être quelqu'un de bien et finalement, je suis peut-être pas si mal. C'est-à-dire que je pense que le film lui a montré qu'elle était quand même courageuse, l'a aidée à s'accepter un peu plus, parce que c'est vrai que la vie vient cogner en permanence sa famille et que ses parents ont arrêté l'école, par exemple, à 13 ou 14 ans, et donc elle peut pas tellement se reposer sur l'exemple, en fait, de ses parents. L'idée même qu'elle ait un diplôme et vécu dans la famille comme une victoire, un triomphe, si vous voulez.
Mais Anaïs, vous vivez comment cette différence ? Alors, c'est votre amie, Emma, il y a une vraie différence sociale. Est-ce que c'est un obstacle pour vous deux ?
Honnêtement, non. Moi, j'ai jamais fait attention aux différences. Enfin, pour moi, il n'y a pas de différence entre Emma et moi.
On ne s'est jamais jugé.
Oui, on ne s'est jamais jugé. Emma, ça sait tout ce qui se passe dans ma famille, comme moi, je peux savoir tout ce qui se passe dans la sienne. Il n'y a jamais eu de jugement.
Emma ?
Non, vraiment, ça a toujours été une relation sans jugement, parce que pour nous, il n'y a pas lieu de juger les gens. Et même nos familles, je sais que ma mère, elle est un peu proche de ma mère, et moi, je suis allée quelques fois chez elle, et vraiment, ils n'avaient pas peur, nos familles respectives, de se montrer devant l'une ou l'autre comme ils étaient, quoi.
Mais vous avez conscience d'avoir plus d'atouts dans la vie au départ ?
Oui, ça c'est sûr que d'un point de vue notamment matériel, c'est vrai que chacun a ses difficultés dans sa famille, mais c'est vrai que j'ai toujours été très admirative de la manière dont Anaïs appréhendait les choses et se sortait des situations difficiles sa vie.
Anaïs, il vous arrive d'envier la vie d'Emma, de ce point de vue-là ?
Envier, oui et non, mais pas envier méchamment, c'est pas de la jalousie en fait, mais c'est vrai que ça peut être enviable, mais c'est pas parce qu'on va dire que Emma a plus d'atouts que moi dans la vie qu'elle aussi n'avait pas ses propres problèmes justement à gérer. Et ça, c'est, il y a des gens qui ont tendance à l'oublier. Il y a des gens qui disent Emma elle est issue d'une famille bourgeoise, Anaïs elle a des problèmes, nanana. Mais faut savoir que Emma elle a tout aussi son lot de problèmes en fait à gérer. Donc
En commun, par exemple, il y a un amour étouffant de part et d'autre quand même. Il y a une pression du côté d'Emma, mais c'est une pression d'amour des parents.
Et vous, maternelle.
Maternelle, oui. Et vous, pareil, c'est ça. Vos parents vous étouffent un petit peu à certains moments, quoi, Emma.
Oui, c'est vrai que c'est compliqué. C'est étouffant. Et en même temps, des fois, j'avais l'impression qu'ils ne me faisaient pas confiance. Enfin, par rapport au cinéma, je sais que c'est un monde très incertain, mais je savais que c'était ce que je voulais faire. Donc, même si à un moment, ça n'aboutit pas ou autre, je voulais tenter les choses. Et c'est vrai que c'était ça un peu qui était dérangeant par moment. Mais vraiment, à chaque fois, c'était juste parce qu'ils avaient envie du meilleur pour moi.
Alors, adolescente, t'es donc sur 5 ans, et notamment traverse les attentats contre Charlie Hebdo, en ce moment c'est le procès donc de ces attentats, en janvier 2015, et on a choisi cet extrait d'Anaïs avec son père à table, qui lui fait la leçon par rapport à tout ça.
De manière, depuis la nuit des temps, la plupart des guerres et des batailles c'est parti à cause des religions, donc je vais pas dire que ça va s'arrêter. Mais les musulmans, je suis désolée, c'est pas eux qui ont fait ça. Déjà d'une, les frères Kouachi.
Ils ont fait quoi ?
Écoute-moi, les frères Kouachi, ils étaient reconvertis. Donc à la base, ils sont chrétiens, de 1, et à la base, ils sont français, 1, de 1. De 2, c'est pas les musulmans, c'est les djihadistes et les terroristes. Et excuse-moi, mais pas dans le même palier de terrorisme et musulmans, parce que c'est pas du tout pareil. Et franchement, tu veux que je te dise, c'est Emma qui me l'a dit, mais il y a quelque chose de beau dans cette histoire, c'est quand même que quand ils étaient dans le supermarché juif là. Et que tu sais qui a donné l'idée, qui a enfermé les autres pour les protéger dans le truc, et qui s'enferme avec, c'est un musulman. Donc je sais pas, faut arrêter de dire que les musulmans ils sont horribles. Hein. Parce que attends, les musulmans ils ont autant été touchés que la France. Parce que tout le monde dit ouais les musulmans, mais ils ont rien fait les musulmans, merde. Imagine ça aurait été nous qu'on prendrait un grippe dans pratiquement tous les pays. Imaginez ça aurait été ouais les Français de manière. Donc faut arrêter, c'est pas parce que ils ont quoi de truc les musulmans. Moi j'ai un truc que je comprends pas. C'est une religion comme la nôtre. C'est une religion, c'est tout.
Parole de la sagesse. À un moment, vous dites, Anaïs, Emma me l'a dit.
Ah mais Emma, c'est ma référence.
C'est la référence.
Non, mais c'est intéressant. Vous avez parlé de ça entre toutes les deux.
Oui, on en a parlé, que ce soit toutes les deux ou avec nos amis du collège. On a quand même évoqué le sujet. Enfin, c'est un sujet qu'on peut pas passer à côté, même pour des personnes qui ont, entre guillemets, qui n'en ont rien à faire, on va dire. On pouvait pas passer à côté, donc oui, on en a parlé ensemble.
Pareil, Sébastien Lipschitz, quand ça arrive, vous y allez bien sûr, vous allez dans la classe, dans leur environnement, pour voir un peu les répercussions de ce séisme.
Bah, je trouvais très important, tout d'un coup, de pouvoir leur donner la parole, en fait. Ouais. C'est-à-dire que les attentats sont quand même quelque chose. Il n'y a pas eu un attentat, en fait. Là, il se trouve dans le film, j'y vais pour Charlie, j'y vais pour le Bataclan, ouais. Mais il y a eu Nice, il y a une multitude d'événements extrêmement choquants. Et c'est vrai que en 2015, quand tout ça est arrivé, on n'a absolument pas donné la parole aux ados.
C'est vrai.
Et tout d'un coup, moi, j'étais à une place et j'avais cette possibilité de leur donner la parole et de les écouter et de voir si justement, enfin, ce qu'ils en comprenaient en fait. Et donc, je trouvais ça extrêmement important d'être là et de les filmer chacune dans leur classe et de voir si elles ont une idée ou non. De ce que c'est que cette question justement des attentats, de ce que c'est que l'islamisme radical, etc. Oui. On a souvent l'habitude de dire que les ados ne s'intéressent pas au monde extérieur, en fait, que ça glisse sur eux, et comme s'ils étaient complètement repliés sur eux-mêmes, dans leur bulle. Et en fait, c'est pas vrai. Le monde, les événements du monde, en fait, les traversent, ils le savent. Ils aiment pas forcément en parler, mettre des mots dessus. Mais ils ont un avis évidemment dessus. Et quand parfois ils sont forcés d'en parler ou de dire quelque chose, bah ça sort. Et là, Anaïs avec ses parents, c'est typique. Voilà, sa mère et son père tiennent un discours raciste et ça lui est insupportable. Elle dit ce qu'elle pense. Elle en a rien à faire s'ils sont pas d'accord. Elle dit ce qu'elle a à dire.
En revanche, il y a une autre scène qu'on va vous faire écouter parce qu'elle est assez extraordinaire, parce qu'elle n'a pas, on l'a pas vu ça dans les infos, c'est en classe. Alors là, on quitte Anaïs et Emma, c'est dans une classe qui réagit après les attentats du Bataclan.
Le lendemain, quand je me suis réveillé, je croyais que c'était un cauchemar. Moi. Ça fait, en plus, mais c'est pas d'actualité, ça fait des années que c'est comme ça. Il faut se faire une raison, on est en guerre. Il y a plein de pays qui...
On disait ça l'an dernier.
Mais c'est pas parce qu'on se bat pas avec des baïonnettes dans des tranchées et tout, parce que c'est pas une guerre.
Je suis d'accord, il se trouve qu'il y a beaucoup de tabous par rapport à ça dans le milieu politique. Je pense qu'ils devraient le dire une bonne fois pour toutes, c'est la guerre et c'est tout. Faudrait qu'ils arrêtent de dire oui, c'est si, c'est ça, faut qu'ils emploient les vrais mots.
J'ai mon père qui est militaire qui est parti ce matin pour le plan qui s'est installé. Avec ma mère, on avait dit on en a marre en fait, c'est chiant de vivre comme ça quoi.
Ton papa revient à temps, Anaïs. Tu ne sais pas, il est parti pour une durée indéterminée.
Il va sûrement louper les fêtes de fin de
l'année. Il y en a un qui s'est fait sauter à côté du Stade de France, il avait 17 ans. C'est pas censé exister, ce genre de choses. À 17 ans, t'as envie d'avoir des amis, une famille. Du coup, ils disent, bien, nous, on est ta famille, on te lâchera pas. T'as un dieu, entre guillemets, qui lui te lâchera pas et à ta mort, il va te tout donner, mais non. C'est juste des conneries pour qu'ils prennent la confiance, pour qu'ils se laissent avoir et qu'au final ils font ce qu'ils veulent.
Tu es révolté.
Non, mais c'est chiant quand. Ça me casse les couilles.
Tu as peur?
Oui, j'ai peur.
Elle est très forte cette scène, hein, Sébastien Lifshitz. Vous avez dû être saisi quand vous avez filmé ça. Je veux dire, c'est des moments uniques, quoi, de recueillir cette parole-là.
Mais c'était beau parce qu'en fait, ils parlaient de ce qu'ils avaient sur le cœur.
Oui.
C'était direct. Hein. Tout d'un coup, l'école jouait pleinement son rôle, c'est-à-dire que c'était un espace de parole qui leur était offert justement pour qu'ils puissent exprimer absolument sans aucune censure tout ce qu'ils comprenaient ou non, tout ce qu'ils ressentaient par rapport à ces événements tragiques, en fait. Et on voit qu'ils ont des choses à dire, en fait. Et que, comment aussi, tout simplement intimement, en fait, ces événements ont des répercussions dans la vie de chacun, en fait. Par exemple, cette jeune fille qui dit que son père est militaire et qui est obligée de partir, sera probablement pas là à Noël, qui met sa vie en danger. Et tout d'un coup, elle réalise que quelque chose qui se passe loin d'elle, puisqu'on est à Brive, tout d'un coup... peut ramener éventuellement du drame, en fait, dans sa propre famille.
C'est un peu double peine pour vous, Anaïs. Je veux dire, toute cette actualité, et puis votre actualité à vous, votre vie, votre adolescence sera sous le sceau de tout ça. Comment vous avez parcouru tous ces événements?
Honnêtement, je sais même pas comment j'ai, on va dire, trouvé la force. Surtout, quand l'une des choses qui était les plus dures, mais c'est déjà, c'est le décès de ma grand-mère, parce que j'étais très très proche de ma grand-mère, c'était vraiment un pilier. Donc voilà. Et ma maison qui brûle, c'est littéralement, on voit sa vie partir en fumée devant soi, et ça, c'était vraiment quelque chose. Je suis restée devant ma maison, justement, je regardais, j'étais impuissante. Donc je sais pas du tout comment j'ai trouvé la force de remonter la pente, on va dire, mais Après, avec oui, les attentats, c'était quelque chose aussi de horrible. Même si c'était à Paris qu'on était à Brive, enfin, ça peut arriver partout en fait. C'est pas parce qu'on habite à Brive que c'est une petite ville qu'il ne peut pas avoir d'attentats chez nous. Et c'était quelque chose. Moi, c'est des scènes quand je les ai re-regardées, notamment quand ils chantent la Marseillaise aussi, oui, qui me donnent les frissons. Et là, la scène qu'on vient d'écouter, c'est une scène qui m'a fait pleurer. Honnêtement, c'est très touchant et ça fait du mal un peu.
Et vous êtes un peu seule là-dedans. D'ailleurs, on va choisir ce moment aussi où vous en confiez à votre père, enfin votre père.
C'est pas que je pense à moi. C'est justement, ça fait 4 mois que je pense à vous et tout, je dis rien. Je garde tout pour moi. Quand les éducatrices, elles ont dit que je vous tyrannisais, que j'étais un danger pour vous, je crois que ça m'a fait plaisir.
Mais c'est vrai en plus.
Je rigole pas là, papa, vraiment, je rigole pas. Je crois que ça m'a fait plaisir d'entendre ça.
Mais c'est pas moi. Hein.
Oui, mais vous écoutez les éducatrices que quand ça vous arrange en fait. Donc quand c'est moi qui prends tout en pleine gueule, ça fait 4 mois que je fasse quelque chose de bien ou que je fasse quelque chose de mal, ça me retombe toujours dessus, tu peux pas dire le contraire. Mmh. Du coup, ben voilà, ça me saoule, quoi. À un moment donné, j'ai 17 ans, enfin, je sais pas, comprenez-moi, je suis une ado, ça fait 4 mois que j'ai pas de vie sociale. Donc ça me saoule, quoi, enfin. Parce qu'en plus de ça, bon, tu vas dire, ouais, c'est que des problèmes d'ado, on s'en fout, mais tu crois que moi-même, j'ai pas des problèmes à gérer? Donc déjà, ouais, je m'en veux assez, parce que d'habitude, je suis toujours avec Timéo dans le lit. Le seul jour où je suis pas, ça prend feu.
Ça arrive aussi. Hein.
Mais voilà, mais moi, il n'y a pas que ça. J'ai l'impression que vous en foutez de ce que je ressens ou pas.
Mais non,
quand je suis triste, au limite, vous vous en foutez. Combien de fois tu m'as engueulée parce que je pleurais quand même. Je pleurais à cause de Dimitri, tu m'as engueulée comme pas possible pour que j'arrête de pleurer.
C'est pour voir,
mais t'as jamais eu ton premier chagrin d'amour, papa?
J'ai pas été comme toi, heureusement. Tu vas avoir 18 ans, tu veux pas.
Oui, mais c'est pas parce que je vais avoir 18 ans qu'il faut s'en foutre de ce que je ressens.
Non, mais tu dis rien.
Mais quand je pleurais pour Dimitri, tu vas pas me dire que tu voyais pas que j'étais malheureux. Je mangeais plus, je faisais que pleurer, je bougeais plus, je parlais plus.
On a parlé à l'éducatrice, on a parlé à l'assistance sociale.
Et au final, elles ont fait quoi, elles, pour moi?
Après, c'est eux. Après moi, voilà, j'en ai parlé.
Non, mais personne n'a... Parce que là, c'est peut-être égoïste ce que je vais dire, mais c'est vrai que personne n'a rien fait pour moi.
Une scène comme ça, Sébastien Lifshitz, vous la provoquez pas? Vous êtes là, à ce moment-là, ils sont près de la fenêtre, ils parlent comme ça
Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'Anaïs, la veille, m'appelle et me dit, elle en avait gros sur la patate, quand même. C'est-à-dire que ça faisait longtemps que elle avait le sentiment que ses parents, enfin, particulièrement son père, parce que sa mère était hospitalisée à ce moment-là, que son père, en fait, prenait pas conscience de ce qu'elle vivait, elle, au quotidien. Et je lui dis, mais est-ce que tu parles avec lui? Est-ce que tu lui dis? Et elle me disait non. Je lui dis, bah, il faut que tu lui dises. Sinon, s'il arrive pas à le voir, il faut bien qu'à un moment, que tu puisses t'exprimer. Et donc du coup, en fait, là, on est sur dans la nouvelle maison, en fait, puisque la maison a cramé d'avant. Il y a une visite et du coup, je dis à Anaïs, je lui dis, écoute, on est là. Si t'as des choses à lui dire, elle avait un peu peur quand même. Je lui dis, on est là, vas-y. Et voilà. Et donc, elle s'est lancée, en fait.
Les pères, parlons-en. Ils sont pas tellement présents dans ce film, Emma.
Non, mais c'est sûr.
C'est vous qui le dites vous-même. Hein.
Ouais.
Ah oui.
Bon, oui, oui. Mon père, je le vois.
Très là. Hein.
Ouais.
Mon père, clairement, il était là que les week-ends. Et voilà. Enfin, après, j'ai pas du tout la même relation avec lui qu'avec ma mère.
Il s'est intéressé au film ou pas, au tournage?
Oui, oui, beaucoup. Mais après, il n'était pas forcément là quand Sébastien venait. Il devait être là, bon, de manière ponctuelle. Mais sinon, oui, il s'est toujours intéressé à ce que je faisais. Mais Il est différent de ma mère dans le sens où elle va plus formuler les choses et lui il est un peu plus dans la réserve et voilà, il y a une certaine distance on va dire entre nous.
Et même ils connaissent pas trop vos rêves et notamment vos rêves d'actrice.
C'est marrant quand tu dis je veux travailler dans le cinéma et toutes les personnes pensent actrice, ils pensent pas aux autres métiers quoi. C'est vrai.
C'est vrai que tu as changé Emma parce qu'auparavant tu voulais
faire
chef opérateur.
Oui, mais toi, t'as dit que je voulais faire, s'il te plaît, réalisatrice.
Ou réalisatrice.
Non, jamais dit ça, donc déjà.
Ah, que si.
Attends, on a croisé une fille qui était avec moi quand on était petite, et elle a dit que j'avais toujours dit que je voulais faire actrice déjà. Donc,
très honnêtement, c'est vraiment une grande. C'était une grande nouvelle.
Mais tout le monde le savait à part toi, en fait. Donc, c'était si j'étais intéressée aussi.
Emma, hein. C'était la révélation de ce milieu d'année. Si, tout à fait.
Attends,
c'est pas du tout ça.
On va faire plus simple dans les trois métiers de cinéma. Si tu veux classer 1, 2, 3, lequel tu mets en premier, en deuxième, en troisième.
Mais j'ai dit actrice, après voilà, mais vous suivez un peu.
Et après voilà.
Après j'ai dit scénario, après là, je m'en fous. Mais vous me saoulez.
Un seul. Putain.
Mais dis donc.
Mais si tu t'intéressais un peu plus à ce que veulent tes enfants, ça va.
Ah.
Mais oui, tu saurais les choses parce que tout le monde a toujours dit que j'ai. Tout le monde a toujours su jouer faire ça. Alors, vraiment,
Tu te saoules pas, non? Mais tu as besoin de t'énerver comme ça?
Toujours pour montrer que t'as toujours raison. Mais là, t'as tort, c'est tout.
Je vois pas en quoi elle a tort. Hein.
Mais si, parce qu'elle elle arrête pas d'aller camper sur ses positions.
C'est extraordinaire. Mais non, j'ai déjà eu cette discussion.
J'ai toujours dit ça. C'est toujours toi qui as un problème.
On peut discuter normalement sans que tu t'emportes, tu te mettes à pleurer. Enfin,
toi, tu t'en fous, donc ça va.
Ah ben, en quoi je m'en fous? Ah ben, elle est pas mal celle-là. Pourquoi tu dis je m'en fous?
C'est pas quand on te le demande que tu dois t'intéresser. Merci.
Ah bon.
Enfin bon, quoi qu'il en soit, tant que ta détermination est celle que tu sembles vouloir montrer, mais écoute, oui, si tu partais à la fac, ça serait l'échec assuré. C'est tout. C'est tout.
Bon, arrête.
Quoi?
Non.
Bon, arrête de m'énerver, bon, je te dis. Ça va.
Bon, je me tiens.
Ouais, ça fait pleurer quand même ce genre de discussion. Maintenant, vous avez 20 ans, Emma.
Oui.
Vous étudiez le cinéma?
Vous ah oui, ouais. Oui, là je suis à la faculté, ben celle où j'ai été prise à Paris 8,
ouais.
Et sur Parcoursup. Voilà.
Parcoursup.
Et du coup là je passe en troisième année. Bon, ça va être un peu compliqué parce qu'ils font pas trop court, mais là cette année on reprend et après je ferai une école, je pense.
Et vous, Anaïs?
Alors moi je suis partie sur Limoges faire ma formation d'aide-soignante. Après on va dire qu'il y a eu quelques petits litiges. Donc j'ai pas eu...
Que tout ça est bien dit.
Je m'exprime bien. Et du coup j'ai pas eu mon diplôme malheureusement d'un point. Donc en fait il me manque deux compétences.
Un point.
D'un point, oui. En fait, enfin, il me manquait 8 points. Sauf que le jury du diplôme d'État m'a accordé 7 points, mais m'a pas accordé le dernier point manquant.
Ah. On se croirait dans le film. Là.
Donc, du coup, il me manquait donc ce point. Donc on va dire que j'ai voulu faire une petite pause pour être sûre que c'était bien ce que je voulais faire. Et puis dû aussi à la santé de ma mère fragile, Et mais là, je compte bien reprendre parce qu'il me reste deux compétences, donc deux stages à faire.
On va terminer parce qu'on est passé par pas mal d'épreuves, mais on va passer aussi par les petites confidences entre amis, notamment sur l'amour.
N'empêche, par rapport au pronostic qu'on avait fait en début d'été, j'avais raison.
C'était quoi?
Moi, j'ai toujours dit que ce serait Zélia.
Ouais.
Ouais.
Voilà.
Nous, on a toujours dit toi en premier, Zélia deuxième et moi troisième.
Moi, je fais pas avec Antoine.
Pourquoi?
Bah, alors là, il me donne pas du tout envie.
Mais en même temps, c'est normal quand t'as Capelas à côté qui te fait envie comme je sais pas quoi.
Pas du tout.
Si, on dirait un enfant dans un bonbon. Hein,
mais pas du tout, c'est que... Non mais regardez-le. On dirait un éventail, Antonin.
Ouais.
Putain, il a aucune prestance, ce gars, merci.
Tu préfères coucher avec Baptiste qu'avec Maxime?
Ouais. Bah oui. Il y en a un qui est brun, qui est poilu, et l'autre qui est imberbe.
Mais où est le rapport? Est-ce que le même style de gars, ça se mesure au poil des gens?
Mais non, mais c'est pas le même style.
Si, c'est le même style.
C'est juste parce qu'ils ont tous les deux des lunettes.
Mais pas du tout. Parce qu'il est brun, parce que c'est rugby, parce que c'est gros cul, parce que c'est tout.
Voilà.
Bon, de toute façon, il faut.
Ouais.
Tout cela est dans...
C'est un peu le marché aux bestiaux de Brive-la-Gaillarde.
Oui, c'est ça.
Un petit côté comme ça.
Un garçon éventail, je ne connaissais pas. Non, tout cela est merveilleux. 500 ouais, heures résumées en 2 heures et 15 minutes pour ce portrait d'adolescente de la France de cette époque-là. C'est absolument remarquable, Sébastien Lifshitz. Le film est sorti mercredi, oui, allez-y tous.
Vraiment.
On reparle des autres films après Carnaval de voyous. Et encore un petit morceau d'adolescente avant.
Ah, c'est Jean. C'est pas Jean-Philippe.
Oh, Il y a Jean-Phi. Oh là là, qu'il est beau.
Jean-Phi.
Oh putain, en fait, il est musclé.
Mais je te l'ai dit hier qu'il avait un petit peu de pectoraux, là, Jean-Phi.
Jean-Phi.
Arrêtez, imaginez.
Elle lui fait des coucous, quoi.
Non, attendez, non, pas maintenant.
Quelle joie l'emporte, ce diable au sourire accroché, qui ne fait que chanter depuis qu'il a quitté. Tôt ce matin, cet appartement parisien, inconnu jusqu'alors de ses nuits, ses aurores. Regardez-le sourire aux immortels. Il a les yeux et le cœur qui s'éveillent, et les œuvres qu'il dévale se transforment en carnaval. Celui de son enfance au paradis. Clamer dans l'amertume sa soif de solitude, qu'il aurait cru à faire danser des inconnus. Les yeux loin dans le vague et le cœur qui s'emballe. Regardez-le sourire aux immortels. Il a les yeux et le cœur qui s'éveille. Et les avenues qu'il dévale se transforment en carnaval. Celui de son enfance, au parapluie qui danse. De son cœur jaillissent des orbes, de confetti en désordre, qui l'enroule et l'entraîne dans une journée nouvelle avec elle.
Et voilà les sorties de la semaine à côté de votre film adolescente. On va commencer avec La Daronne de Jean-Paul Salomé. Patience Portefeu, Isabelle Huppert est interprète judiciaire franco-arabe spécialisée dans les écoutes téléphoniques pour la brigade des stupes. Lors d'une enquête, elle découvre que l'un des trafiquants est le fils de l'infirmière dévouée qui s'occupe de sa mère. Elle décide alors de le couvrir et se retrouve à la tête d'un immense trafic. Elle est surnommée La Daronne, récit d'une métamorphose et scénario dont la loufoquerie ne tient qu'à un fil. Isabelle Huppert, son amour du jeu, du travestissement, elle s'amuse, elle jubile et ce film, Laurent, vient compléter sa folle filmographie.
Oui, alors il y a une comédie policière plutôt bien ficelée, même si les dites ficelles sont plutôt attendues. Il y a une volonté de dépeindre un quartier de Paris et ses trafics de drogue. Il y a une galerie de second rôle plutôt réjouissant. Et puis, il y a Isabelle Huppert. Tout à la fois au centre et à la marge du film, présente et absente, absolument fascinante, de bout en bout, qui se cache derrière des grosses lunettes noires, un voile, et elle existe en permanence, tout en étant dans un décalage tout aussi permanent. C'est ça qui est absolument fascinant. De film en film, comme ça, évidemment, ce qu'on regarde de plus en plus, c'est Isabelle Huppert, ses transformations, cette façon, effectivement, d'habiter ou non l'espace. Et ça, de ce point de vue-là, la Daronne est une nouvelle pierre, et plutôt dans une lignée, on se souvient qu'elle est... Elle peut faire rire, hein, Isabelle Huppert. Dans Rien ne va plus, par exemple, de Claude Chabrol, ou dans Tip Top de Boson, c'est cette façon-là aussi, à elle, d'exister et qui est toujours très très intéressante.
Elle aussi a voulu rencontrer et filmer l'adolescence de son pays, l'Angleterre, et représenter surtout la diversité ethnique et religieuse d'une ville, Londres. Pendant de nombreux mois, Sarah Gavron a rencontré des centaines de filles pour en choisir une trentaine à l'arrivée et construire avec elles ce film, Rocks. C'est une fiction, mais qu'elle voulait imprégner de vérité, la fameuse vérité documentaire. Avec sa productrice, elle a mis en place des ateliers avec des jeunes, des travailleurs sociaux. Et de ces ateliers sont sortis cette histoire, celle de Rocks, 15 ans, qui vit avec sa mère et son petit frère. Du jour au lendemain, la mère disparaît et Rocks devra assumer sa nouvelle vie pour surtout échapper aux services sociaux. C'est un sujet souvent traité au cinéma, mais plutôt finement contourné par la réalisatrice, qui s'est plutôt attaché à la solidarité des copines de Rocks. On vous a demandé à tous les trois de voir ce film. Anaïs, je crois que vous l'aimez beaucoup.
Oui, j'ai beaucoup aimé, je l'ai trouvé très, très émouvant. Et ce que j'ai surtout bien aimé dans le film, c'est en fait on voit la solidarité entre elles et l'amitié en fait. Ça montre que l'amitié, vraiment, la vraie amitié, elle est plus forte que tout. Et malgré ce que Rocks a pu faire ou autre, elles sont toujours là, toujours présentes. Et aussi le petit lien, on va dire, avec les réseaux sociaux.
Elle nous fait penser à vous, Rocks. Vous avez vu une espèce d'identité.
Un peu. J'ai vu des ressemblances, oui.
Emma ?
J'ai beaucoup aimé ce film. Je l'ai trouvé très fort. Et vraiment, elles ont toutes des personnalités, je trouve, assez dingues. Et elles ont une... parce que comme ça empreinte documentaire, et elles ont toutes une force. Et vraiment, oui, c'est vrai que c'est beau la manière dont, même si Rock, par certains moments, va un peu s'éloigner d'elles, elles vont toujours être là et ne jamais oublier le lien qu'elles ont créé ensemble.
Sébastien Lipschitz, c'est vrai qu'il y a une belle énergie dans ce film, Rocks.
Oui, il y a une très belle énergie, mais c'est surtout, j'adore le casting en fait des filles. Ouais. Je trouve que c'est ce qui me fascine le plus. On sent que ce sont des non-acteurs et qui, tout d'un coup, donnent au film une grande partie de ce qu'ils sont. Et c'est ce que j'ai. Il y a une énergie et une complicité entre les filles que je trouve très belle.
Merci de cette générosité pour un film qui sort la même semaine que vous. Moi, je propose aux éditeurs. Non, mais c'est vrai. Je propose aux éditeurs d'aller voir Adolescente et ensuite Rox. Voilà.
En ce moment, il faut aller au cinéma.
Il faut aller beaucoup, au cinéma. Beaucoup, beaucoup. Absolument.
C'est
vraiment.
C'est important.
Les joueuses, hashtag pas là pour danser de Stéphanie Gillard. C'est bien la première fois que je dis hashtag dans un titre de film. Elle a suivi le quotidien des joueuses de l'Olympique Lyonnais qui viennent d'être sacrée championne d'Europe, Laurent. Entraînement, compétition, doute, victoire, au cœur du quotidien.
Oui, oui, c'est ça. C'est d'abord un film sur le travail, sur l'effort physique, sur l'importance du mental, comme on dit dans le milieu sportif en général, du moral, évidemment. C'est filmé au quotidien et Stéphanie Gillard le filme très très bien. C'est une dimension qui pourrait s'appliquer d'ailleurs à beaucoup d'autres activités humaines laborieuses. Et le sport en fait partie, mais pas seulement. Alors, sa caméra reste dans les stades, sur le terrain, dans les vestiaires, sans chercher les confidences, sans chercher l'intime, sans chercher le hors-champ, qui serait ici, sans jeu de mots, un hors-jeu. Hein. D'où un film très très attachant, avec notamment beaucoup de choses sur ce que disent les anciennes aux nouvelles. Les anciennes qui sont là depuis plusieurs années aux nouvelles. Tiens, j'ai dit anciennes et nouvelles. Oui, parce que ce sont des joueuses. Mais c'est très très bien aussi dans le film. On l'oublie, cette dimension féminine. Et c'est, je trouve que c'est aussi une très belle façon de traiter le sujet que de ne pas l'axer uniquement sur ce genre. Voilà.
À 90 ans, il tourne encore. Paul Vecchiali, un soupçon d'amour, insatiable appétit de cinéma. L'histoire de Geneviève Garland, une célèbre comédienne qui répète Andromaque de Racine avec pour partenaire son mari André. Elle ressent un malaise profond à interpréter ce personnage et cède son rôle à son amie Isabelle, qui est aussi la maîtresse de son époux. Geneviève s'en va avec son fils malade dans son village natal.
Oui, vous le disiez, 90 ans, hein, 30e film pour Paul Vecchiali. Alors certes, c'est peut-être pas En haut des marches, Femme ou Corps à cœur, ces films qu'on a énormément aimés en leur temps et qui déployaient des choses très très belles. Mais avec l'économie des moyens que l'industrie du cinéma lui accorde, et ben Paul Vecchiali réussit un nouveau mélo absolument assumé. Le film est évidemment dédié à Douglas Sirk. C'est comme il se doit dans un mélo sur le fil du rasoir absolument. C'est-à-dire que de temps en temps, on se dit, ça bascule dans le gênant ou dans le risible. Oui, mais à ce moment-là, le maître Vecchiali sait absolument se rétablir tel un culbuto pour aller ailleurs et pour faire en sorte que son film se tienne, et notamment se tienne en permanence sur une question de deuil que je ne révélerai pas, parce qu'il y a vraiment une façon incroyable de tenir le spectateur en haleine de ce point de vue-là, avec, comme d'habitude chez lui, une belle pléiade d'actrices avec Marianne Bassler et Fabienne Babe en tête.
Un documentaire sur un immense comédien, le fantôme de Laurent Terzièv de Jacques Richard. Un vaste portrait, donc, un homme complexe et secret révélé au cinéma, notamment avec Les Tricheurs de Marcel Carné, suivront 67 films, notamment avec Pasolini, Buñuel, Clouseau ou Godard. Mais le théâtre, surtout, a une vie entièrement consumée par son art.
Incroyable. Il a dit d'ailleurs lui-même qu'il avait fait le pont entre en quelque sorte, l'ancienne vague et la nouvelle vague, hein, au cinéma. On a peut-être un peu oublié cette dimension-là, parce que c'est vrai que l'acteur de théâtre, là, a ensuite phagocyté cette espèce d'incandescence qui était Terzièv. Terzièv, c'était le théâtre, quoi. Voilà. Il y avait pas d'autre incarnation possible. Il a vécu de ça. Et tout le film le montre. C'est l'histoire d'un apostolat, dit son réalisateur, Jacques Richard, dans ce très, très beau documentaire. Si on aime Terzièv, le théâtre et le cinéma, il faut absolument aller le voir.
Et enfin, un cycle d'un grand cinéaste japonais, auteur de 90 films, c'est Mikio Naruse, dont 5 films, dont 3 inédits, Laurent.
Même 4. Une réédition. Je ne donne pas les titres des 5 films, mais effectivement, allez voir ce cinéaste japonais, un petit peu, qui est moins connu qu'Ozu, par exemple, etc., mais qui vaut énormément la peine qu'on s'intéresse à sa filmographie.
On va terminer avec les cadeaux, Laurent. Un cadeau chacun pour nos tousseuses.
Absolument pour cette saison. Pour Emma, un récit en quelque sorte de Clovis Gou qui s'appelle Cher Jeudi. Jeudi, c'est Jeudi Foster. C'est paru aux éditions Stock. C'est très intéressant. C'est la fascination de quelqu'un qui a tiré sur Ronald Reagan en son temps. Fascination pour une actrice.
John Hinckley.
Voilà, pour une actrice Jodie Foster. Donc c'est très 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 passionnant comme façon d'envisager les choses. Alors pour Anaïs, puisque vous revenez aux urgences bientôt, on vous le souhaite, et ben on vous a trouvé Arythmie de Boris Klebnikov. C'est un cinéaste russe, comme son nom l'indique. Et Le Monde, tenez-vous bien, dit que c'est dans la veine d'urgence, la vodka en plus. Donc vous allez voir, ça vaut effectivement le coup. C'est chez Epicentre Film, c'est un DVD, c'est un film, voilà. Et croyez-moi, ça, comme on dit, ça dépote. Pour vous, Sébastien Lifshitz, votre tropisme féminin fait que nous vous allons vous offrir la 7e obsession qui, pour son nouveau numéro dans sa nouvelle formule, c'est une belle revue de cinéma, titre La puissance féminine, histoire des héroïnes de cinéma. Vous venez d'en créer deux nouvelles. Et bien là, vous en verrez d'autres dans ce numéro de la 7e obsession en kiosque, bien évidemment.
On va terminer par une dernière héroïne. Elle disait mesurer la distance entre vous et le rôle et remplissez cette distance, remplissez-la par la vérité. Parole de Diana Rigg qui vient de mourir à 82 ans. Emma Peele, icône des années 60, intelligente, courageuse, drôle, belle. Le rôle était déjà attribué à l'origine à un homme, mais elle l'a transformé. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Anaïs, merci Emma, merci Sébastien.
Merci.
Adolescente est sortie mercredi. Allez-y, conseil d'amis, générique avec vous trois. Au revoir.
C'est une émission inspirée par tous les films de cinéma.
Il y a des réalisateurs et des acteurs.
Il y a aussi des scénaristes et des chefs opérateurs.
Les prises de vue sont des prises de son.
Georges Delerue a écrit les musiques du générique.
Les morceaux ont été choisis par Muriel Pérez.
Christophe Magère s'est occupé de la préparation.
C'est une émission réalisée par Laurent Thomas et Claire Destacon.
Elle est produite et présentée par Christine Masson et Laurent Delmas.
Et moi, Anaïs Chambaudy, j'y étais.
Et moi, Emma Jaubert, j'y étais.
Et moi, Sébastien Lipschitz, j'y étais.